nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
On passe une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, l'ethnologie des mots du cancer. Si le sujet vous semble complexe au premier abord, il est en réalité assez simple à comprendre. Plusieurs ethnologues sont partis à la rencontre des patients, ont recueilli et analysé leurs témoignages. Et de cette étude, il ressort plusieurs thèmes forts, notamment la question du temps. Pour parler avec nous de cette première étude ethnologique des mots du cancer, je reçois Jean-Luc Laurie et Jeanne Bordeaux. Jeanne Bordeaux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice et fondatrice de Presse Publica et de l'Institut de la qualité de l'expression. Nos auditeurs vous connaissent puisque vous animez également avec Olivier Naoum l'Oreille aux aguets sur Canal Académie et vous avez suivi la réalisation de cette première étude ethnologique. Jean-Luc Laurie, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous êtes chercheur, ethnologue. Vous travaillez à la Fondation de la Maison de Sciences de l'Homme et c'est vous qui avez dirigé cette étude avec l'aide de plusieurs de vos confrères, à savoir Anne Bott, Mathieu Laurie et Maurice Godelier. Alors peut-être pourrions-nous commencer par une définition de l'ethnologie, car si on s'attend à trouver des ethnologues en Amazonie, en Afrique, qui étudient les peuples autochtones, on s'attend peut-être moins à les trouver à l'hôpital, Jean-Luc Laurie.
Oui, mais écoutez, je ne sais pas si vous donnez une définition de l'anthropologie, surtout au moment où Claude Lévi-Strauss nous quitte. Mais il faut faire la différence entre anthropologie et ethnologie, si vous voulez. L'anthropologie, c'est globalement la science qui étudie les différences. L'ethnographie, ça va être une démarche plus micro, plus locale. Ça veut dire que, micro-local, ça veut dire que c'est une observation dite participante. Alors ça, il faut y mettre beaucoup de guillemets parce que c'est pas souvent possible de faire une observation participante. Par contre, ce qui est très important, c'est que l'ethnographe travaille en immersion. Et ce qui est important, c'est que depuis la fin des années 90, les objets de l'anthropologie sont en train d'évoluer. Et ça, c'est un virage important, c'est-à-dire les anthropologues sont consacrés, par exemple, au terrain français, au terrain de la ville. D'autres thématiques ne sont pas que des thématiques spatiales, à la violence, à l'immigration, au terrorisme, mais aussi au grand âge et aujourd'hui à la maladie. Et vous avez beaucoup d'exemples d'anthropologues, d'ethnologues qui s'intéressent à la maladie.
Alors justement, venons-en à cette étude ethnologique des mots du cancer. On a bien compris, grâce à vous, la différence entre l'anthropologie et l'ethnologie.
J'espère.
En parlant d'ethnologie des mots du cancer, est-ce à dire qu'il existe une société structurée qui se crée entre les patients et le personnel soignant?
Je dirais pas ça. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on pourra dire au terme des trois opus qu'on est en train de travailler. Mais je ne crois pas qu'il va se construire une société structurée ou quelque chose de structuré entre les patients et le milieu soignant. Il va se construire des liens sociaux entre les patients, entre les soignants, entre les patients et leur entourage, qui constitue un microcosme, et là, c'est là que c'est important, entre les patients et leur entourage et le milieu soignant, qui constitue un autre microcosme. Et c'est là que ça devient compliqué, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société globale. Alors, ça a l'air d'être une banalité de dire que dans une société globale, mais je crois que ça agit sur chacun d'entre nous au niveau de la définition de sa culture personnelle. Quand on est confronté à la maladie, là, il y a des choses qui s'imposent à vous. Et alors, c'est là que nous, on essaye d'étudier très finement et depuis le terrain les composantes de cette identité que va se construire le malade dans une espèce de révolution intérieure. Il est malade, et puis ensuite dans sa vie, parce qu'il n'est plus maître de sa vie à partir du moment où l'annonce lui est faite du cancer. Et là, badaboum, il a pris, je ne sais pas trop quoi sur la tête, mais en tous les cas, sa vie a changé, ses liens sociaux vont évoluer, son identité va se recomposer.
Alors nous allons venir dans quelques instants à la rencontre de ces patients et des thèmes qui sont apparus avec les témoignages. Auparavant, Jeanne Bordeaux, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qui a motivé une telle étude? Pourquoi le laboratoire, en l'occurrence Merck Serono, s'est intéressé à cette étude ethnologique des mots du cancer?
Alors quelques mots peut-être sur Merck Serono. C'est une des plus vieilles entreprises de pharmacie au monde. Ils ont débuté en 1827. Ils développent entre autres des produits en oncologie. Ils consacrent 20% de leur chiffre d'affaires à tout ce qui est R&D. et ils travaillent plus particulièrement sur les thérapies sélectives anti-cancer. Et ils se sont dit que, évidemment, il était nécessaire de traiter les malades et de progresser, et maintenant le cancer se soigne, mais il est nécessaire aussi de s'occuper du bien-être du malade. Et si le traitement a une place centrale, le patient et sa compréhension sont aussi important. C'est d'ailleurs désormais signalé dans le plan cancer. Donc je pense que Merck Serono a été précurseur en ajoutant cet apport fondé sur les sciences humaines, d'abord avec les trois alphabets depuis 2007 et avec ces trois études à paraître. Et je crois que là, ils veulent établir une passerelle entre malades et soignants.
Vous parliez de l'alphabet des mots du cancer, nous renvoyons nos auditeurs à deux émissions consacrées à ces alphabets des mots du cancer. Venons-en aux témoignages. Je me tourne vers vous, Jean-Luc Laury, puisque vous faisiez partie donc, des ethnologues hein, qui ont rencontré ces patients. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même un contexte particulier, il fallait porter une blouse pour pouvoir peut-être vous mouvoir comme les soignants au sein de l'hôpital. Et n'y a-t-il pas eu confusion entre les psychologues et les ethnologues que vous étiez pendant ces 6 mois où vous avez travaillé ?
J'ai essayé de m'imaginer ce qu'était ce monde de la maladie et de ce monde du cancer et qu'est-ce que c'était d'aborder cette maladie sur le terrain de l'hôpital. Ça a été un choix et que nous avons fait avec Merck. Et là, on a travaillé avec Merck, moi j'ai travaillé avec beaucoup d'entreprises et avec Merck dans des conditions assez particulières parce qu'il y a une élaboration commune de l'objet de l'étude. Et au départ, on était parti sur cette étude, les malades du cancer. Et quand j'ai construit cette étude, et j'ai choisi deux ethnologues, un ethnologue, une ethnologue, un plus jeune, une plus âgée, mais pas très âgée. C'est important d'avoir les deux regards. On a commencé à aborder le terrain. Et très rapidement, on s'est rendu compte que la relation qu'on réussissait à tresser sur ce terrain impliquait des choses énormes. On a eu énormément de retours immédiatement sur le terrain. Donc ça veut dire d'emblée que les malades eux-mêmes, j'évite d'employer le terme patient. Hein, parce que dans le cancer, être patient, un patient, c'est subir. Et dans le cancer, un malade doit être interactif avec le milieu qui l'entoure. Et ça, c'est une composante importante pour comprendre quelles sont les relations qui s'instaurent entre le malade, entre l'entourage du malade qui le suit à l'hôpital et la filière oncologique, parce que ça a une application directe sur la qualité de la chose. Donc nous avons commencé cette étude, et Merck a été en parfaite réactivité. Merck a changé de casquette. Enfin, Merck, c'est Monique Marly et Dominique Cellier, deux médecins de formation, et qui sont devenus des chercheurs à un moment. Et moi, j'ai essayé de comprendre leurs problématiques. Et immédiatement, nous avons décidé, très rapidement, avec une coopération totale de la PHP et de l'hôpital Paul Brousse et du service de David Machevert, qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, nous avons décidé d'allonger la durée du terrain, donc de l'immersion. Et ensuite, il y a eu pas mal de mois cumulés sur le terrain. Et se sont dégagés très vite, les trois orientations de cette étude.
Le temps, absolument. L'entourage, et quel est le troisième opus?
C'est le plus compliqué, il est plus intime, il est plus compliqué à écrire, et ça sera la représentation de la maladie. Toujours, vu par le malade, depuis l'hôpital. Ça, il faut insister, c'est une étude qui est sur le terrain de l'hôpital.
Alors revenons à ce premier opus, le temps. Pour pouvoir avancer sur ce premier opus, donc vous avez rencontré, j'imagine, ces patients, ces témoignages. Comment ça s'est passé sur le terrain ?
Alors, l'organisation est un peu particulière. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé assez étroitement avec David Machevert, donc le patron de ce service à l'hôpital Paul Brousse. Nous avons identifié deux ethnologues. Les ethnologues ont été au pied du lit du malade, car nous avons privilégié le malade hospitalisé. Et bien sûr, les malades, quand ils étaient dans les consultations, et si possible, les consultations d'annonce. Alors c'est très, 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 très compliqué. Les deux ethnologues de terrain, Mathieu et Anne, ont donc été sur le terrain. Ils avaient une blouse à la demande de David Machevert. Il était clairement expliqué qu'ils étaient des ethnologues. et qu'ils n'étaient pas du tout de la filière soignante. Et c'était très intéressant parce qu'immédiatement, mais c'est quoi l'ethnologie? Mais qu'est-ce que vous faites? Ah bon, on ne savait pas que c'était ça. Ben tiens, on croyait que vous nous preniez pour des tribus. Je sais pas quoi. Bon, c'est assez classique comme démarche. Et moi, je me suis astreint à faire décrypter les entretiens. Donc on a une énorme quantité de verbatim, comme dirait Jeanne, qui sont très 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 précieux pour nous. On en a fait des matrices, les mots sont très importants et bien sûr on a mis ces mots dans des contextes et dans des observations qui elles-mêmes nous semblent pertinentes. À mon sens, dans ce type de sujet, il faut créer une distance alors que l'ethnologie de terrain fait que justement on est au plus proche du sujet. Et sur un sujet pareil, qui est un sujet qui est parfois émotionnellement très dur, Anne et Mathieu ont été parfois un peu éprouvés, hein. Et bien, il est très important de garder une distance, je dirais pas une froideur, mais une distance. Et ça, ça faisait partie des présupposés de l'enquête et je pense qu'on n'a pas à le regretter.
Quelques citations des témoignages que vous avez récoltées, quelques citations parmi d'autres. L'annonce, c'est la désorganisation du quotidien, le travail, les projets, les lieux de vie. Puis il faut réorganiser en tenant compte de ces nouveaux éléments.
Ben oui, bien sûr. Si vous voulez, d'abord, quantitativement, l'étude, c'est 145 heures d'entretien. Ensuite, il y a 52 patients, il y a 25 hommes, 27 femmes. La plupart, sur l'ensemble des entretiens, il y en a plus de 100 qui sont justement au pied du lit malade. Vous savez qu'aujourd'hui, l'hospitalisation, elle est très courte. C'est 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Et donc, on revoit ces gens dans le temps, précisément. Et ça, c'est important. Et vous venez de me lire une citation. Et donc, très, très vite, sur cet échantillon assez important de malades, et échelonné dans le temps, avec une diversité de profils culturels ou socio-professionnels, et ou socio-professionnels, des choses sont apparues de façon récurrente. Ce à quoi vous faites allusion, c'est effectivement quelque chose qui apparaît sans cesse quand le malade vous raconte l'annonce. L'annonce qui lui est faite de la maladie. Là, je vous disais, le ciel lui est tombé sur la tête et tout d'un coup, c'est l'anéantissement. Tout d'un coup, c'est pourquoi moi? Est-ce que c'est une fatalité? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Quelle est la cause dans ma vie? C'est une interprétation personnelle. Et c'est souvent là où on empiète sur le deuxième opus. Il est fondamental d'être avec quelqu'un parce qu'il faut comprendre à deux. Il faut pouvoir après commenter à deux ce qu'on vient d'entendre. Et là, on est tout d'un coup coupé, dépossédé de son libre arbitre, dépossédé de la maîtrise de soi, de son temps, de sa vie d'une certaine façon. Donc là, vraiment, on change de rapport à soi, à son entourage et à la société parce qu'on ne sait même plus comment on va continuer à entretenir ce rapport à la société quand on vient d'entendre « vous avez un cancer ».
Le rapport, il est aussi avec les médecins, les soignants. Quel est le rapport entre soignants et soignés, Jeanne Bordeaux?
Alors, c'était important, donc Monique Morali et Dominique Sellier ont tenu à ce que des cancérologues soient interviewés et on voit bien que, par exemple, le professeur Buga va être très sensible à cette relation soignant-soigné où il dit que beaucoup d'humanité doit passer dans l'échange, où il conseille presque lui-même l'intervention d'un tiers acteur et que désormais le médecin ne soit peut-être pas seul, toujours avec le malade, parce que tout s'est complexifié. Donc il prend en compte l'importance qu'auraient les sciences humaines. On voit pour le docteur Mineur, qui est lui sur le terrain, qu'il reconnaît là encore que tout ce qui est dit, on le sait, mais que le fait de le verbaliser a son importance, parce que comme le cancer se soigne, et comme vient de l'indiquer Jean-Luc Laurie, le patient n'est plus toujours uniquement à l'hôpital, tous les échanges et tout le long de la chaîne de soins, le fait que des thérapies parfois diversifiées soient appliquées, va rendre cette relation soignant-soigné complexe, intelligente, spécifique, riche et nécessite certainement des regards autres que le regard scientifique et technique, je dirais presque des seules sciences dures ou des seules sciences médicales. Donc l'apport là des trois cancérologues est à étudier et regarder. Le professeur Machauvert, lui, insiste plus sur tout, je dirais presque l'ordonnancement qu'apporte l'hôpital et la force de protection par rapport à des personnes qui sont quand même perdues au moment où cette annonce a lieu et pendant les moments des soins. Mais la relation soignante soignée et soignant pour les trois cancérologues est déterminante.
Il y a également des médecins qui, j'imagine, ont apporté leur pierre, leur contribution à cette étude. Les médecins ne manquent-ils pas de temps pour parler à leurs malades et non pas patients, comme l'a précisé Jean-Luc Laurie, Jeanne Bourdeau, selon vous ?
On va dire que les médecins semblent parfois avoir le mauvais rôle, mais c'est très complexe pour eux parce que d'une certaine manière, ce sont quand même, quand on les connaît au quotidien, des héros. Ils doivent garder la distance qu'il faut, l'humanité nécessaire. Chaque cas est un cas unique. Donc, c'est très difficile d'avoir un raisonnement généraliste. Je crois que là, vraiment, il faudrait leur donner la parole, ce qui sera peut-être fait dans les deux autres études, puisqu'il y aura toujours un dialogue dans les études, beaucoup plus longuement.
Restons bien sûr dans le domaine du temps, puisque c'est l'objet du premier opus sur cette étude ethnologique. Jean-Luc Laurie, quelle a été, si vous deviez avoir en tête une citation, quelle a été la citation ou le témoignage qui vous a le plus marqué sur la notion du temps ?
J'ai mis en exergue à cet opus une citation d'un malade qui nous a quittés. C'est un monsieur qui est un grand intellectuel. Et j'avais trouvé le titre de ce livre, de ce premier opus, un ou deux mois avant. J'ai appelé le passé et le futur au présent. Je crois que ça résume pour moi ce qu'était la présentation du temps pour un malade. Et lui nous dit ça. « Je reviens sur le temps. » J'ai fait un petit texte sur le temps que j'ai intitulé « Le temps, c'est nous ensemble ». Pour faire une critique amusée de l'expression « on a le temps », on n'a pas le temps. Ma critique commence par le fait que ce n'est pas le verbe « avoir » qu'il faut employer, car on n'a rien, on est le temps. C'est le verbe « être » qu'il faut donc employer. C'est un thème, entre parenthèses le temps, infini, merveilleux. Le temps, ça touche au problème de la mémoire. J'ai revu beaucoup de mes poèmes. Pour moi, le passé est un mot qui est très mal nommé. Tous ces poèmes m'ont déclenché un rapport à la mémoire, à l'oubli, qui est devenu ce livre de poèmes paru en janvier de cette année. Ça va bientôt faire un an. Il y a du passé qui n'est pas passé, qui est toujours actif. Au 5e siècle, saint Augustin, dans ses confessions, disait « Il n'y a pas le passé, le présent, l'avenir. Quand je pense à mon passé, c'est au présent. » Ce monsieur avait 76 ans.
Jeanne Bourdeau, vous souhaitiez
intervenir ? Oui, c'est intéressant parce qu'on peut lire aussi dans l'étude menée par les trois ethnologues un malade qui dit « Maintenant, je me fous du passé, c'est l'avenir qui compte ». Donc on voit bien toute la complexité de chacun quant à cette relation au temps.
Quand le malade dit ça, c'est de qui il s'agit. Nous sommes dans un cas où justement le malade vit le temps d'une façon un peu paranoïaque. Je vais essayer de m'expliquer parce que ça a un rapport avec la relation soigné-soignant. Si vous voulez, un malade, quand on lui annonce qu'il a un cancer, il est en train de créer des microcosmes très particuliers. D'abord, il a un microcosme à lui seul. Il doit être en équilibre avec lui-même, avec une conception qu'il avait du temps, du passé, de sa mémoire, qui aujourd'hui est complètement chamboulée. Ensuite, il y a un microcosme entre lui et le microcosme qui compte le plus, c'est celui de sa famille, son entourage. Alors, vous imaginez ce que peut être cette maladie quand on n'a pas de famille, quand on est seul. Et c'est souvent le cas de malades qui sont, ils viennent se faire soigner en France, mais qui viennent d'autres pays. Hein. Et puis ensuite, c'est le microcosme que chacun de nous se crée entre son microcosme familial et son microcosme socio-professionnel. Puis imaginez-vous, c'est ce que je disais tout à l'heure, que toutes nos identités sont composites. Hein, c'est fait de plein de petites identités que vous associez en fonction de votre cartographie personnelle. Mais il faut que ça soit en équilibre. Et donc, là, dire, mais tout ça en équilibre. Et ce qui est le centre de gravité de tout ça, c'est le temps. Quel temps il me reste en sachant que la première chose qu'on lui impose, c'est de se soumettre à une chronologie. Jeanne parlait tout à l'heure de la disponibilité des soignants, mais les soignants, et c'est là-dessus qu'insiste David Machauvert, doivent imposer une règle très stricte aux malades, des rendez-vous extrêmement stricts, des prises de médicaments extrêmement strictes. On a un mode de soins qui est la chronothérapie. Et la chronothérapie, comme son nom l'indique, ça ne supporte pas d'être décalé dans le temps. Donc le temps devient pratiquement obsessionnel. Obsessionnel, pourquoi ? Parce qu'au moment où on a un rendez-vous, on s'occupe du malade. Le malade redevient le centre du monde qu'il veut être à l'hôpital, puisque c'est le monde qui est là pour le soigner. Seulement, les soignants à l'hôpital ont beaucoup de malades. Seulement, cette maladie se soigne en équipe. Et David Machauvert déplore justement qu'il n'ait pas assez de temps à consacrer à ces malades. Pas assez de temps pour les écouter, pour parler avec eux, pour être disponible. Il ne comprend pas comment on peut faire ce métier et ne pas se rendre disponible, mais en sachant que c'est carrément impossible. Donc, c'est en cela qu'ils ont été passionnés par l'étude, enfin, tout du moins le service de David. Ils ont été passionnés par l'étude qu'on a faite, parce qu'on fait ce qu'ils ne peuvent pas faire, et peut-être que grâce à ça, et c'est le souhait de Merck, on peut donner des outils à la filière soignante pour déceler, pour baliser ce qui peut être important dans les mots du malade, dans le vécu du malade, où eux sont au centre du vécu de ce malade. Donc c'est plutôt quelque chose qui est un outil que quelque chose qui est une énième parution scientifique.
Pour terminer cette émission, justement, un outil destiné à qui, Jeanne Bourdeau? Est-ce que c'est destiné, j'imagine, aux praticiens, aux oncologues, mais est-ce que c'est destiné aussi à d'autres personnes?
Oui, effectivement, des oncologues jusqu'à toute la hiérarchie, je dirais, des personnels soignants, hein, les infirmières et tous ceux qui sont importants et qui ne traitent pas ou ne soignent pas uniquement, mais sont dans le bien-être du malade. Et puis, évidemment, ce qui était très important dans notre travail de communication, ce sont les décideurs de la communauté médicale. Donc, au moment du plan cancer, certes, Madame Bachelot, le président de la République, l'ont reçu, les ministères, les parlementaires, les sénateurs, toutes les commissions ad hoc et les organismes institutionnels. Mais je crois que ce qui est très important, c'est de savoir qu'il y a aussi les associations de patients, parce qu'elles vont retoucher les proches et tout le terrain. Et le terrain agit beaucoup, et beaucoup d'initiatives vont de son fait compléter tout le travail déjà bien fait des médecins. Donc vraiment, il y a un travail régulier, continu, et c'est un peu le même travail qu'avec l'alphabet des mots du cancer. C'est-à-dire que c'est gracieux, et c'est un combat que mène là Merck Serono, convaincu que cette dimension sensible et humaine a vraiment une part importante.
Si je peux me permettre une petite remarque, il faudrait quand même que vous donniez une petite statistique, mais ça, je vais vous la donner. En 2005, il y avait 320 000 nouveaux cas de cancer, hein, 180 000 chez les hommes, 140 000 chez les femmes. En 25 ans, l'incidence du cancer a doublé chez l'homme, 93% et 84% chez la femme. Donc, vous avez 146 000 personnes qui sont mortes des suites du cancer en 2005, 320 000 personnes en 2005. Est-ce que vous pouvez imaginer combien ça représente de personnes touchées par le cancer indirectement dans cette société? Vous multipliez par 2, par 3, par 4, par 5, avec quel indice? Quand vous êtes la femme, le conjoint, ça vous touche directement, mais quand vous êtes dans une relié professionnellement ou d'une façon un peu plus distante dans la parenté, ça vous touche également. Donc c'est un vrai phénomène de société. Et c'est là que je tiens également à saluer Merck, parce qu'aujourd'hui, dans le plan cancer, l'entourage est devenu une priorité du plan cancer.
Autre question de temps, le deuxième opus est prévu pour...
On vise mars.
Mars 2010. Mars. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine rencontre. Merci.
Merci Elodie.